15h, 16h, son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'épilation définitive. Beaucoup de femmes en rêvent et même des hommes aujourd'hui y font appel avec notre médecin invité, le médecin esthétique Jean-Marc Ada. Nous ferons le point sur les différents types de lasers pour se débarrasser des poils, comment ça marche et le résultat est-il toujours définitif? On vous dira tout. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des bienfaits de la luminothérapie sur la dépression. Selon une étude récente, elle ferait aussi bien que certains antidépresseurs. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler d'un dispositif médical vital pour certains patients, le pacemaker. À quoi sert cette machine concrètement? Comment ça se pose? On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, on fera le point sur comment pimenter sa vie sexuelle, même quand son partenaire ne veut pas trop aller vers de la nouveauté. Elle nous donnera quelques conseils pour tenter de petites choses nouvelles tout en douceur.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle d'Amélie, 39 ans.
Bonjour Mélanie Gomez et docteur Mohamed. Je vous appelle car j'ai raté le rappel de vaccin DTP de ma fille qui a aujourd'hui 14 ans et c'était normalement à l'âge de 11 ans qu'il fallait le faire. Je voulais savoir si c'était grave.
Alors Jimmy, ça peut nous arriver à tous hein, d'abord de louper un rappel de vaccin chez son enfant, ou même pour soi d'ailleurs, mais est-ce que c'est grave?
Alors pour ce vaccin-là, c'est pas très grave, notamment parce qu'on parle de rappel. Elle a déjà fait 2 vaccinations, et ce qu'il faut savoir, c'est que le DT polio, le diphtérie tétanos poliomyélite, dans la diphtérie, on n'en a plus en France depuis plus de 10 ans, la poliomyélite aussi, ça a disparu, en tout cas en France, parce que la poliomyélite existe encore.
C'est pour ça qu'il faut continuer à le faire, ce vaccin, hein. Si ça a disparu, c'est grâce à ça aussi.
La semaine dernière, j'ai vu une patiente malgache de 39 ans qui a eu des séquelles de poliomyélite, et la poliomyélite, lorsqu'on l'attrape, on a des séquelles à vie avec des déformations.
Donc ça existe toujours, cette maladie.
Et le tétanos, attention, on néglige souvent le tétanos, c'est quelque chose qui ne se transmet pas d'homme à homme, mais en revanche, une simple coupure, une blessure, jardiner, se blesser avec une rose, peut vous faire transmettre le tétanos. Et on a eu ce cas il y a quelques mois d'un enfant de 6 ans qui est mort du tétanos suite à une plaie pour des parents qui avaient refusé de le vacciner. Donc le risque, il est plutôt sur le tétanos grâce à la vaccination.
Bon, alors là, ça veut quand même dire que Amélie, elle doit aller faire ce rappel pour sa fille. Bon, c'est pas une urgence non plus. Est-ce qu'il va falloir qu'elle reprenne toute la vaccination de DTP depuis le début? Parce que je crois qu'on commence quand on est nourrisson, mais peut-être
exactement,
pas.
Exactement, non, là, on parle d'un rappel. Donc, lorsqu'on a loupé un de ces vaccins, on ne reprend pas tout à zéro. Il suffit d'aller le faire le plus tôt possible, et puis on est couvert.
D'accord. Et donc, cette jeune fille, elle a 14 ans. Elle a raté le rappel à 11 ans. Est-ce que vous voulez nous rappeler quand même le nombre d'injections qu'il faut pour être bien protégé contre ce DTP, la diphtérie tétanos
polio? Ce DTP, on commence à 2 mois, on fait un rappel à 4 mois, puis à 11 mois, puis ensuite on le fait à 6 ans, et à partir de 6 ans, on attend 5 ans, et on doit le faire entre 11 et 13 ans. Elle a 14 ans,
bon, c'est pas la mort,
elle
n'est
pas très loin, donc finalement on a de la marge, donc il suffit de le faire tout simplement.
Et quand on est adulte, il y a encore des rappels hein, par contre, c'est ça?
Oui, après cette case de 11-13 ans, la fois d'après c'est à 25 ans. Et à ce moment-là, en général, on vaccine aussi contre la coqueluche, parce qu'on perd l'immunité liée à la coqueluche. Et puis après, à 45 ans, c'est-à-dire 20 ans plus tard, 65 ans, mais à partir de 65 ans, on le fait tous les 10 ans, car on considère que la réponse immunitaire est moins bonne.
Quand on vieillit, effectivement.
Exactement, donc on fait 65 ans, 75 ans, 85 ans,
bref,
c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement, et surtout, on a le temps, et globalement, c'est pas très compliqué.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Magali, 34 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle, j'ai une petite question. J'ai de l'acné sur le visage, et mes collègues de boulot me disent d'arrêter de mettre du fond de teint. Est-ce que c'est une vraie info, ou est-ce que je peux continuer à mettre du fond de teint malgré mon acné sur le visage? Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Alors Jimmy, je sais que vous êtes le spécialiste du fond de teint, donc je me suis dit que c'était une question pour vous. Quand on a de l'acné, en tout cas d'un point de vue médical, est-ce que le fond de teint c'est une mauvaise idée ou pas?
Ouais, mieux vaut demander conseil à son dermatologue, parce que la peau de l'acnéique est une peau fragile, et donc avant de mettre n'importe quel produit, il faut faire attention, parce que certains sont comédogènes, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer plus de boutons. Donc, faut pas mettre n'importe quel maquillage sur la peau, notamment lorsqu'on a de l'acné.
Donc, on peut utiliser des cosmétiques, même peut-être des fonds de teint, mais il faut bien les choisir, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, et puis il faut essayer de mettre simplement des petits sticks qui permettent de camoufler certaines imperfections qu'on voudrait masquer et éviter les couches de fonds de teint qui empêchent la peau de respirer, car une peau qui ne respire
ça bouche
pas.
Bouche un peu les pores.
Exactement,
et tout ça,
c'est une
sûr.
Peau qui va sécréter plus de sébum et forcément plus de boutons.
Et donc, une fois qu'on a choisi un fond de teint spécial pour peau sensible, acnéique, voilà, on s'est fait bien renseigner. On n'oublie pas finalement que ce qui est le plus important, c'est l'hygiène et de se démaquiller en fait,
oui.
Parce que c'est bien beau de mettre du fond de teint, mais il ne faut
exactement.
Pas oublier de l'enlever.
L'hygiène de la peau, c'est la base dans le traitement de l'acné. Donc, il ne faut pas oublier d'ailleurs, avant de vouloir masquer cette acné, plutôt de prendre en charge cette acné. Parce que maintenant, les traitements sont plutôt efficaces, les dermatologues sont à l'écoute. Donc, on a des traitements efficaces. Il faut bien se laver les mains, les visages, pardon, matin et soir avec un produit adapté.
Les mains aussi,
et puis,
hein, d'ailleurs.
Oui, les mains aussi. Oui. Et puis, il faut se démaquiller systématiquement le soir. On laisse la peau respirer et saine. Et un dernier conseil qu'on peut donner, on a toujours envie d'éclater ces boutons disgracieux. On ne les trifure pas, on les laisse tranquilles parce que ça, on risque simplement de laisser des cicatrices qui, elles, ne partiront pas.
Et puis sous les ongles, on a des saletés tout le temps,
exactement.
Même si on se lave les
on
mains régulièrement.
On a du staphylocoque, voilà. Et donc forcément, sous les ongles, c'est pas propre. Donc on évite de les éclater, même si parfois, l'envie nous démange.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Beauté, vous êtes vraiment un as dans ce domaine aussi. Merci. Alors si vous aussi, comme Magali qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des effets de la luminothérapie sur la dépression. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Jean-Marc Ada, médecin esthétique, avec qui on fera le point sur l'épilation définitive. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Jean-Marc Ada, avec qui on parle aujourd'hui d'épilation définitive. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de luminothérapie et notamment d'une étude menée par le psychiatre et neuroscientifique Pierre-Alexis Geoffroy qui a comparé la luminothérapie aux antidépresseurs dans la dépression sévère. Mais on ne sait pas déjà que la luminothérapie, ça peut aider dans la dépression ?
Oui, et la première étude date de 1984 et on sait que la luminothérapie est plutôt efficace dans le traitement des dépressions saisonnières car elle vient lutter contre la baisse de luminosité, mais ces traitements restent quand même sous-estimés et parfois, on va le reconnaître, un peu méprisés.
D'accord. Et la luminothérapie, est-ce qu'elle est du coup efficace aussi dans cette étude, peut-être sur les dépressions sévères alors ?
Oui, c'est une étude donc française menée par le CHU à Strasbourg qui a recruté 400 participants dans laquelle on compare luminothérapie contre antidépresseurs pour traiter les dépressions sévères. Mmh. Ils ont aussi étudié l'effet de luminothérapie plus antidépresseurs contre antidépresseurs seuls. Donc, c'est plutôt novateur et plutôt intéressant parce qu'on a une tendance en France à avoir une approche un peu médicamenteuse, notamment en psychiatrie. Donc,
un peu la main lourde sur les ordonnances.
Exactement. Donc,
de
c'est plutôt novateur et plutôt encourageant.
D'accord. Et alors, quels sont vraiment les résultats de cette étude ?
Eh bien, lorsqu'on étudie luminothérapie contre antidépresseurs, il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont équivalents, il faudra par la suite faire d'autres tests, mais en tout cas, l'un n'est pas plus fort que l'autre. En revanche, on sait que luminothérapie plus antidépresseurs,
donc les deux combinés,
les
associés,
deux combinés, et c'est significativement plus efficace que le traitement antidépresseur seul. Donc c'est plutôt intéressant parce que du coup, sur le plan clinique, ça a invité les médecins, lorsqu'ils ont un épisode de dépression sévère, à d'emblée donner les deux traitements.
Avoir un outil supplémentaire,
exactement.
En fait.
C'est un outil supplémentaire parce que
qui
souvent...
Pas, qui fait pas mal.
Exactement,
voilà.
On commence par des doses d'antidépresseurs, on se rend compte que ça marche pas super bien, on augmente, on change les traitements, on rajoute des médicaments, donc là, on a une nouvelle arme thérapeutique, surtout sans effet secondaire.
Et est-ce que ça veut dire qu'un jour, on pourra traiter la dépression sévère en première intention avec cette luminothérapie, avec la lumière donc.
Exactement, je vous ai dit que l'un n'était pas supérieur à l'autre, mais ils sont
l'instant.
Pas pour autant équivalents, donc il faudra par la suite d'autres études, mais c'est encourageant et il est raisonnable de penser que par la suite, la luminothérapie pourra être proposée en première ligne dans les épisodes de dépression, non pas sévère, mais dépression classique. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est un outil supplémentaire dans l'arbre diagnostique et thérapeutique du médecin. Pour l'instant, on a, à l'heure actuelle, on n'avait que les traitements médicamenteux et puis l'approche psychologique. Donc, la luminothérapie est efficace et par la suite, sera proposé en première intention.
Et en attendant, évidemment, les médicaments restent indispensables. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Jean-Marc Ada, médecin esthétique à Boulogne-Billancourt.
15h, 16h,
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Ada.
Bonjour Mélanie.
Alors, d'abord en France, depuis quand on fait de l'épilation définitive? Est-ce que ça existe depuis très longtemps ou pas? Je ne me rends pas du tout compte.
Alors, en France comme dans le monde, ça fait à peu près 25-30 ans qu'on pratique l'épilation laser.
Bon, on a quand même un petit peu de recul avec 25 ans de pratique. Vous le pratiquez depuis longtemps par exemple, vous?
Nous, au centre, ça va faire 20 ans qu'on fait de l'épilation laser.
Ouais, donc des pionniers. Est-ce qu'il y a une grosse demande aujourd'hui ou est-ce que c'est une demande qui a été en augmentation là, depuis 25 ans sur l'épilation définitive?
Alors, c'est une grosse demande parce qu'on a un département qui est spécialisé que dans le laser, avec 5 médecins qui font du laser du matin au soir. Et j'ai vu l'évolution avec les années. Et effectivement, la demande est tout à fait croissante.
Jimmy ?
Et chez les hommes, c'est des hommes qui sont un peu plus âgés, je pense, que les femmes lorsqu'ils viennent dans votre cabinet ?
Alors, on parle d'indication ou de volonté. L'indication, effectivement, on conseille aux hommes un peu plus âgés. Ça veut dire que les études ont montré que c'était préférable de faire du laser chez l'homme à partir de 35-40 ans.
Pourquoi cet âge-là?
Parce qu'il y a une maturité hormonale de l'homme qui est retardée par rapport à celle de la femme. Chez la femme, généralement, à partir de 18-20 ans, on peut commencer les séances d'épilation laser.
Parce que grosso modo, la pilosité,
elle est stable,
à son terme.
Elle s'est stabilisée, exactement. Ouais. Chez l'homme, c'est un peu plus tardif, 35-40 ans.
Vous voyez, Jimmy, vous n'avez pas encore tous vos poils, ça va arriver.
Oh là là, quelle angoisse.
Non, vous pouvez commencer maintenant, Jimmy, à votre aussi. Mais la seule chose, c'est que vous aurez le risque c'est d'avoir besoin de plus de séances que la moyenne.
D'accord. Et votre patientèle, on est d'accord, c'est vraiment plus des femmes quand même. Là, Jimmy s'intéresse aux hommes parce qu'il est sûrement tenté par l'expérience, mais c'est plus des femmes quand même globalement.
Alors, c'est plus des femmes, effectivement. On est plus dans les 80-20 en termes de pourcentage.
Ah oui, quand même.
Oui, les femmes font plus attention à leur poil que les hommes.
Ouais, Jimmy, vous ferez monter peut-être les statistiques si vous vous y mettez.
Oui, il y a peu de chance, mais pourquoi pas.
Mais les hommes commencent à prendre une place prépondérante parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode aussi de ne plus avoir de poils. Les années torse poilu, c'est terminé.
D'accord. Et les femmes, elles viennent à quel âge en moyenne pour se faire, enlever les poils au niveau des jambes, des aisselles, du maillot, je ne sais pas. Mais alors, c'est l'âge, le pic, on va dire, de fréquentation.
C'est entre 20 et 25 ans. Maintenant, on a des demandes quand même assez jeunes. Alors, on explique aux patientes, comme ce que je disais à Jimmy par rapport aux hommes, c'est qu'on peut commencer vers 17-18 ans, mais on risque d'avoir besoin de plus de séances.
Et si on commence... vous acceptez des patientes à 16 ans ou 15 ans?
Non, généralement, on conseille vraiment aux mamans qui viennent avec leurs enfants d'amener leur fille à partir de 18 ans.
Pas avant.
Après, ça peut rester du confort parce que il y a des critiques chez les jeunes filles à la piscine, au lycée et tout ça.
Quand elles ont la moustache.
Exactement, c'est difficile. Donc des fois, on essaie de les faire patienter un petit peu.
Alors docteur Ada, vous nous en dites bien sûr plus dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Bien sûr.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique concrètement. Que se passe-t-il lors des séances d'épilation définitive? Combien en faut-il d'ailleurs de séances? Et puis, est-ce que ce laser fonctionne vraiment sur tous les types de poils, toutes les couleurs par exemple? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean-Marc Ada, médecin esthétique à Boulogne-Billancourt. Alors, on va revenir quand même sur le principe de l'épilation définitive. Concrètement, c'est quoi? Vous nous faites quoi? Alors, on sait que c'est avec des lasers, mais qu'est-ce que vous allez brûler ou faire en fait en réalité?
Alors, le laser en fait est une émission d'une lumière qui va avoir pour cible la mélanine, qui est le pigment du poil. Ça veut dire qu'en fait, le laser va détruire le poil par la destruction de cette mélanine qui est extrêmement concentrée.
J'ai l'impression qu'on parle de moi quand on parle de mélanine. Mais j'ai l'impression qu'on va détruire Mélanie.
Presque ça.
C'est ça.
Et en fait,
c'est le pigment en fait. Hein,
exactement, c'est
ça.
C'est un pigment qui est très chargé au niveau du bulbe. Et donc cette émission de lumière va aller détruire la racine du poil.
D'accord. Et ça brûle en fait. Hein, c'est
exactement.
Ça
la détruit ça par crame, la chaleur.
Quoi.
Ça la détruit par la chaleur.
On fait brûler les poils. Quoi.
Exactement.
D'accord. Alors avant d'entrer quand même dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des gens chez qui on ne peut pas la faire cette épilation définitive pour des raisons X ou Y ou même des raisons médicales?
Alors, les contre-indications pour lesquelles on ne peut pas faire d'épilation laser, c'est les blondes, le poil très très clair, les albinos.
Les rousses comme
et
moi.
Et les rousses, malheureusement, comme vous.
Pas possible.
Désolé, on
ne
pourra pas, Mélanie.
On non, reste sur l'esthéticienne et l'épilation
vous.
À la cire. Quoi.
Exactement, et faites copine avec votre esthéticienne, elles sont sympathiques comme tout.
D'accord.
Donc du coup, voilà, ça c'est les contre-indications de base. Après, certaines contre-indications médicales, par exemple, quelqu'un qui vient avec un eczéma en poussée inflammatoire.
Tout ce qui est maladie de peau, j'imagine.
Exactement, certaines maladies auto-immunes. Les lupus et tout ça sur lequel
les tatouages,
on
les zones où il y a des tatouages.
Alors généralement quand on est tatoué à un endroit, on n'a pas le poil à l'endroit du tatouage, mais on a des poils autour, donc on peut le faire même si on est tatoué. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se rapprocher du tatouage parce que le tatouage est composé de pigments aussi.
Et si on a un tatouage à la cheville et qu'il y a des poils dessus, en fait on épile tout autour et on garde des poils
en fait,
sur le tatouage.
Sur le tatouage, on n'aurait pas de poils.
D'accord, bon, ça va. Jimmy.
Et je crois qu'il y a plusieurs types de lasers différents avec des indications bien précise ?
Exactement. Aujourd'hui, on a un panel très important de lasers, à savoir qu'on peut traiter la peau blanche, on peut traiter la peau noire africaine jusqu'à un phototype 6 sans aucun problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a deux catégories de lasers, voire plus. On a le laser alexandrite pour les peaux blanches à poils noirs et on a le laser NDIAG qui est fait pour les peaux noires avec des poils noirs. Et un troisième type de laser, c'est un laser spécial pour les duvets. En fait, il y a une problématique avec les duvets, c'est qu'on ne peut pas faire d'épilation définitive avec le duvet, mais on peut utiliser ce fameux laser qui va en fait créer une décoloration du poil et du coup, la patiente sera soulagée pendant à peu près de 2 à 3 mois.
On les retire pas, mais on les rend plus discrets. Quoi,
exactement,
c'est ça ?
Exactement.
D'accord. Alors, avec le bon laser, du coup, ça marche sur tous les poils, même sur ces duvets, donc.
Alors, sur les poils noirs, la meilleure patiente, c'est la peau blanche, poil noir, la peau noire, poil noir. Ça, aucun problème. Par contre, sur un duvet qui est fin, c'est un duvet qui est faiblement chargé en mélanine. Donc, on utilisera ce fameux laser.
On l'a où, ce duvet, par exemple ?
Le visage, oui. Le visage, la ligne ombilicale, le bas du dos. Et donc, dans ces cas-là, on va utiliser ce fameux laser.
Les cuisses, parfois, il y a des femmes qui ont ça sur les cuisses plutôt que des poils.
Sur les cuisses, généralement, soit on a un vrai poil et à ce moment-là, elles viennent consulter, soit c'est un poil fin et ça ne les dérange pas.
Jimmy ?
Et lorsque certaines femmes veulent se faire du coup épiler la moustache hein, et qui est un petit poil disgracieux,
c'est fréquent. Pas pour vous, c'est très fréquent.
Voilà, mais est-ce qu'on a un bon résultat avec le laser ?
Alors, si une patiente a des poils sur le visage, il faut éliminer tous les désordres hormonaux qui peuvent être en fait à l'origine de cette pilosité. Si on a une patiente lambda qui a une pilosité classique sur le visage, bien une fille bien brune et tout
oui, ça,
on peut utiliser le laser.
Ou sur le menton aussi, vous avez le droit.
Exactement, ça marche très très bien.
D'accord.
Très
et pour efficace. Un homme qui voudrait se faire dépiler, la barbe,
ouais,
c'est possible.
On peut faire plusieurs séances. Il faut être patient.
Et vous en avez des hommes qui viennent pour une épilation définitive.
On a même des hommes qui viennent pour une épilation définitive du crâne, du cuir chevelu.
Bon, mais pourquoi faire ?
Eh ben parce qu'il y en a qui, une fois qu'ils ont peu de poils, peu de cheveux, ils préfèrent en avoir plus du tout que d'avoir une cinquantaine de cheveux qui se baladent.
Et ça marche sur les cheveux aussi, comme les poils.
Exactement.
Alors, parce que c'est
la mélanie
chose, c'est
noire
poils,
aussi,
quoi.
Tout ça, ouais. Exactement.
Ah oui, d'accord. Et du coup, lors de cette première consultation, imaginons, on vient vous voir, Jimmy vient vous voir pour refaire sa moustache, parce qu'il est décidé.
Les poils des oreilles, ça agace ma femme. C'est disgracieux, donc bon, je crois que je vais finir par le faire. Voilà.
On peut faire dans les oreilles d'ailleurs ?
On peut faire, si le poil est fin, non. Si
ça
le
pas
poil
la
est
fin chez Jimmy.
C'est ça, le poil est dur.
Si le poil est noir, oui. Si le poil est noir, non. De toute façon, nous, en fait, il faut toujours procéder, quand vous allez faire une épilation laser, il faut procéder à un bilan. Moi, je conseille toujours d'aller voir un médecin qui va éliminer toutes les contre-indications, faire ce bilan. Et à ce moment-là, on pourra expliquer au patient ou à la patiente si leur profil est adapté ou pas au laser.
D'accord. Alors, je viens pour la première consultation. Enfin, Jimmy vient pour sa première consultation. vous allez vérifier quoi d'abord ? Enfin, qu'est-ce qu'on regarde ? Je sais pas, on va regarder ses oreilles, j'imagine, s'il veut faire ses oreilles.
Non, c'est-à-dire qu'un patient ou une patiente qui vient pour une première consultation, on va vérifier d'abord le terrain, les antécédents. On va vérifier aussi le niveau d'ensoleillement de la peau. Parce qu'en fait, on ne fait jamais, jamais, au grand jamais, du laser sur une peau bronzée. Parce qu'une peau bronzée veut dire accumulation de mélanine et donc risque de brûlure.
On ne fait pas ça quand on vient de faire un gros bain de soleil. Quoi.
Exactement. Donc en fait, y a la première consultation consiste à expliquer au patient comment se déroulent les séances et aussi d'éliminer toutes les contre-indications et de vérifier si la qualité de la peau et de vérifier la qualité du poil.
D'accord. Et juste avant, on passera à la pratique juste après, mais ouais. Avant de faire cette première séance, il y a une petite préparation. Il faut demander à Jimmy de se raser d'abord, hein, c'est ça ?
Alors, avant, sur les zones que l'on va travailler, il faut venir en fait avec des poils qui font 1 mm de longueur. Ça veut dire que ça soit sur des jambes, sur un maillot, on va demander l'échancrure aussi du maillot désiré. C'est la patiente, Jimmy, je ne parle pas pour vous, hein, désolé,
mais
c'est la patiente qui va décider finalement l'échancrure de son maillot.
Alors, docteur Ada, on va continuer cette discussion très intéressante. En attendant, vous restez avec nous.
Europe 1.
Ça va ?
Alors, dans un instant, on passe aux séances de laser dépilatoire. Combien en faut-il d'ailleurs de séances en moyenne pour en finir avec les poils ? Peut-il y avoir des effets secondaires ? Et puis bien sûr, combien ça coûte cette épilation définitive ? Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean-Marc Ada, avec qui on mène la guerre contre les poils aujourd'hui. On parle d'épilation définitive au laser. Alors, une séance de laser, docteur, ça dure combien de temps déjà ? Je viens, imaginons une jeune femme de 35 ans qui vient faire ses demi-jambes. Combien de temps ça va durer ?
Alors, sur les demi-jambes, avec les nouveaux lasers, qui sont beaucoup plus rapides, il faut compter à peu près une vingtaine de minutes, 20-25
minutes.
Ah
oui, c'est hyper court.
Très rapide.
Ah oui, et ça fait mal, parce qu'on se dit un laser là, qui va me brûler, ce que vous avez expliqué, je crains de la douleur quand même, non ?
Alors, le laser ne va pas brûler, le laser va détruire le poil, mais la douleur, en fait, est comme un élastique qui claque sur la peau.
Bon,
ça veut dire que quand les patientes me posent cette question, je leur dis que vous êtes douillette avec votre esthéticienne, avec la cire, elles me disent non, vous n'aurez pas plus mal avec le laser.
Il y en a beaucoup qui répondent non, parce que ça fait mal l'esthéticienne.
Voilà, après les grandes douillettes, notamment pour des zones un peu fragiles, on peut conseiller de mettre une crème anesthésiante, mais dans 90% des cas, on ne met pas de crème.
C'est quoi qui fait le plus mal en général quand on fait là, ouais, c'est ça, comme pour l'épilation finalement à la cire, hein, c'est souvent cette zone-là qui est citée par les femmes. Jimmy ?
Et après la première séance, fini, plus de poils ?
Alors, non, en fait, on a plusieurs cycles pilaires dans la peau, ce qui fait qu'en moyenne, sur des demi-jambes maillot et sel, vous avez besoin à peu près entre 6 et 10 séances, sur un visage un peu plus long parfois. Maintenant, je parle de généralité, tout ce que je viens de vous dire, c'est à peu près 80% des patients. Mmh. Après, il y a des échappatoires à peu près sur 20% des patients. Mais la grande moyenne, c'est entre 6 et 10 séances.
Mais le jour où la patiente, je disais, elle a 35 ans, elle vient faire ses demi-jambes, elle sort de sa première séance, elle sort, elle n'a plus de poils ce jour-là ou comment
alors,
ça se passe?
À la fin de la séance, le poil est grillé. Mm-hmm. Maintenant, la racine est encore dans la peau. Et d'accord. En fait, il faut attendre à peu près entre 5 et 10 jours.
Il pour va tomber
avoir, exactement, ouais. Pour avoir l'expulsion, parce que le corps humain rejette les éléments morts en fait, dans la peau. Mm. Et donc, du coup, entre 5 et 10 jours, le poil est expulsé. Et on attend 6 à 8 semaines pour la séance suivante.
Voilà, j'allais vous dire, pour être sûr que donc, tous les poils aient bien repoussé, c'est
exactement.
Ça
exactement, c'est des cycles pilaires de 6 à 8 semaines pour tout le corps et de 4 semaines pour le visage.
Mais déjà, dès la première séance, en général, on a moins de poils quand même. Il y a un résultat quand même qu'on voit un petit peu tout de suite ou pas?
Le confort arrive dès la première séance.
Ah oui.
Ah oui, on a ce recul
on peut diminuer
des patients.
De combien
des patients
à peu près la pilosité tout de suite dès le premier.
Dès la première séance, vous avez à peu près 20% de pilosité en moins avec un poil qui s'est tout de suite affiné.
Ah oui, en plus. Donc ceux exactement. Qui repoussent, ils sont moins drus, quoi.
Exactement.
D'accord.
Un vrai confort en fait.
Et donc en espace de 6 à 8 semaines. Ensuite, c'est important d'être régulier dans ces séances parce que vous dites qu'il en faut 6 en moyenne chez 80% des patientes. J'en fais une là, donc j'en fais une 8 semaines, mais si je n'ai pas le temps, je l'ai oublié. Est-ce que si je reviens dans 6 mois, ça a une importance? C'est
alors,
pas bien?
C'est toujours mieux de le faire de manière régulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir un poil qu'on appelle en phase anagène. C'est un poil en phase de croissance. Mm-hmm. Le poil, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez détruire un poil en phase de croissance, et à un moment donné, il y a une rétroactivité négative qui fait qu'on aura un arrêt de la reproduction des poils. Donc en fait, tout le système de l'épilation laser réside dans le fait de faire des séances rapprochées.
C'est important de garder exactement. Cette régularité. Jimmy ?
Et du coup, vous avez dit qu'il fallait ne pas être bronzé lorsqu'on fait l'épilation. Tout ça veut dire que là, c'est la bonne période pour commencer l'épilation. Oui. Et puis, est-ce que si on commence là, pour l'été prochain, on sera prêt ou prête ?
Oui, alors d'ici l'été prochain, on aura effectué à peu près 6 séances. Donc on aura bien avancé, mais quand on fait nos bilans au centre avec nos patientes, on leur dit qu'il y a à peu près une année de traitement. Donc on leur dit qu'on peut s'arranger pour les vacances de faire un petit échappatoire, parce qu'on a un petit échappement pardon, au traitement.
Ça veut dire qu'on va peut-être aller se mettre au soleil
exactement,
à un moment donné
en plus. Exactement,
entre
deux séances, on va attendre peut-être 2 mois, du coup, parce qu'il y a les vacances au milieu. On va attendre qu'au retour de ces vacances, on attend à peu près de 1 mois avant de faire notre épilation laser. Mais grosso modo, l'année du laser, c'est une année pour laquelle il ne faut pas trop fréquenter le soleil.
D'accord. Donc on peut commencer n'importe quand en fait.
On peut commencer n'importe comment.
Et quand vous avez dit qu'il faut 6 à 10 séances, par exemple jusqu'à 10, comment est-ce que vous savez qu'il faut s'arrêter? Que là, ça y est, c'était la dernière séance, on attend quoi? Que le poil ne repousse plus mais...
À un moment donné, il n'y a plus de poil.
Donc c'est le critère pour dire que
exactement.
Tout s'arrête.
Exactement.
Elle revient au bout de 8 semaines et il n'y a rien en fait, c'est ça?
Exactement.
Donc parfois vous avez pensé qu'il en fallait 6 et en fait il en faut 4, ça arrive ça?
On a eu des très belles surprises pour les patients, à savoir que des patientes très très poilues qui au bout de 3 séances n'ont plus eu de poils après. Alors on ne pouvait pas le savoir, mais tant mieux pour elles.
Et plus du tout, ça veut dire qu'on ne met plus jamais de la crème épilatoire, plus jamais de passe à épiler, c'est terminé.
Une fois que c'est terminé, c'est terminé.
Pour
les 80%.
Ah oui,
après,
bien sûr.
Ce dont je vous parlais dans les 20%, il peut y avoir, suite à des dérèglements hormonaux, de la ménopause, des grossesses et tout ça, ou certaines patientes aussi qui ont besoin d'une séance en entretien de temps en temps.
Il y en a qui sont un peu résistants en fait, au laser, c'est ça,
ouais,
ça existe.
On peut avoir en fait, des patientes qui ont besoin d'un peu d'entretien.
D'accord. Vous disiez qu'il faut pas en gros, arriver bronzé, mais est-ce qu'une fois qu'on a fait une séance, on peut se mettre au soleil? Imaginons, je fais ma séance demi-jambe, ma 3e séance au mois de juin, je pars en vacances derrière. Ce n'est pas dangereux de se mettre au soleil après avoir eu du laser sur les jambes, par exemple?
Vous pouvez faire votre laser aujourd'hui, aller au soleil demain, mais avec une crème, une protection indice 50, pendant au moins une dizaine de jours après l'épilation laser. Par contre, si vous avez été au soleil aujourd'hui, rendez-vous dans un mois.
Ah, c'est ça, c'est vraiment, il ne faut pas avoir fait avant, il ne faut pas être bronzé en fait, c'est ça.
Exactement.
Parce que c'est vraiment, la peau bronzée, ça risque quoi? On va être brûlé après le laser?
Exactement. Le laser ne va pas savoir faire la différence entre la mélanine du soleil et la mélanine du poil.
Oui, donc c'est même dangereux éventuellement.
Ça veut dire que votre peau va être détruite comme le poil, donc on fait attention pour éviter tous les dégâts.
Mais les gens qui ont des peaux naturellement très bronzées, c'est pas embêtant du coup?
Alors, pour les peaux naturellement bronzées, les peaux mates.
Un peu si comme Jimmy, ce beau teint allé là.
Ouais, mais la mélanine aussi, c'est sympa.
Mais du coup, ça gêne pas pour aller chercher le poil.
En fait, il faut pas avoir une mélanine active. Ça veut dire que, par exemple, une peau noire est remplie de mélanine. La seule chose, c'est que cette mélanine ne vient pas d'être activée par le soleil. Donc, ces personnes-là peuvent aussi avoir du laser. Mais quelqu'un qui a pris un coup de soleil ou quoi que ce soit, c'est niet. Nous, on les refuse au centre, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que on a décidé chez nous de ne faire les épilations que par des médecins, parce que c'est important d'éliminer toutes les contre-indications pour éviter les effets indésirables.
Jimmy ?
Et forcément, ça a un coût. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du prix ?
Alors, les prix sont un peu standardisés aujourd'hui, parce que ça s'est énormément démocratisé sur tout le territoire français. On va dire sur des demi-jambes maillot aisselle, on est à 275€ la séance.
Demi-jambes
maillot aisselle.
Ah oui, vous ne connaissez pas, parce que ça, on a l'habitude de le dire quand on va même chez l'esthéticienne.
Oui,
demi-jambes maillot aisselle pour moi, s'il vous plaît.
275€ la séance. Mais finalement, si on regarde sur le très long terme, parce que l'esthéticienne, si on doit faire
exactement
tout ça tous les mois, pendant des années, c'est finalement...
Non, c'est un véritable investissement sur du long terme, en fait.
C'est ça. Et c'est jamais, parce que c'est de l'esthétique, mais c'est jamais remboursé par la Sécurité sociale, même dans des cas où, je ne sais pas, il y a une maladie, de l'hirsutisme.
Alors,
quelqu'un qui a des poils pour une raison médicale.
Une patiente qui a de l'hirsutisme peut faire une demande d'entente préalable chez son dermatologue. Maintenant, c'est très faiblement remboursé. Donc voilà, maintenant le remboursement, je crois qu'il est à peu près de 4-5€.
Ah oui,
sur une épilation laser, c'est pas grand-chose.
Effectivement, donc c'est un budget qu'il faut prévoir, mais qui vaut le coup sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'efficacité de la lumière pulsée chez les esthéticiennes ? Parce que moi, j'en vois des cabinets encore aujourd'hui d'esthéticiennes où on voit chez nous 10 séances lumière pulsée, vous n'avez plus de poils.
Même des appareils qu'on peut acheter sur Internet,
mais sur lumière pulsée. C'est la même chose, la lumière pulsée, que le laser. C'est un laser d'ailleurs, la lumière pulsée ?
Alors, nous, chez nous, on ne fait que du laser, parce que le laser a prouvé quand même son efficacité de manière plus importante que la lumière pulsée. Il existe effectivement des centres de lumière pulsée, des appareils chez Darty de lumière pulsée et tout ça. Je le sais, maintenant en termes d'efficacité, nous on les reçoit ces patientes qui ont commencé à la lumière pulsée, qui ont une petite efficacité, je ne dirais pas que ce n'est pas efficace, qui ont une petite efficacité, mais rapidement on atteint les limites d'efficacité de la lumière pulsée. Ou dans ces cas-là, on doit passer au laser.
Ou même des gros dégâts. Hein. Vous m'avez raconté en préparant l'émission qu'on peut être très abîmé aussi si
voilà.
on utilise mal ces appareils. Vous m'avez parlé quand même d'une greffe de pubis. Hein.
Exactement. Le pire des dégâts horrible. Que j'avais vu dans ma carrière, c'est d'une patiente qui avait été dans un institut de beauté pour faire une épilation du pubis à la lumière pulsée et qui a été brûlée. Et du coup, elle a été greffée à Percy au niveau du maillot. Donc, ils ont pris de la peau des fesses pour les mettre... suite à une épilation pour enlever des poils.
Bon, ça donne pas envie quand même d'aller le faire dans un cabinet esthétique. Vaut mieux effectivement confier ça à des médecins. Jimmy, vous en pensez quoi, vous ?
Non, mais je pense que vous avez raison. Mais comment on fait pour choisir un bon centre ? Parce que c'est bien beau. Maintenant, on a pris la décision de se faire épiler. On fait comment ? On va comme chez un boulanger au hasard ou...
Non, alors moi, je préconise toujours d'aller dans un centre suite au bouche à oreille, suite au conseil du dermatologue, du médecin généraliste qui va orienter le patient. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de centres qui naissent en France. Sont des centres qui, dans la grande majorité des cas, sont sérieux. Moi, je recommande, pour ma part, et légalement aussi, aujourd'hui, l'épilation laser ne doit être pratiquée que par un médecin.
Parce que souvent, elles sont déléguées quand même, parce qu'il y a un médecin dans la structure, et puis elles
Exactement.
Sont déléguées par des
moi,
assistants.
Moi, j'avais fait un devis il y a quelques années.
Le médecin vient faire un petit coucou en disant bon, tout va bien, merci, au revoir. Il s'assure qu'il n'y a pas eu de complications, mais ce n'est pas le médecin qui le
moi,
fait.
Moi, j'avais été dans un centre où on m'avait fait un diagnostic. C'était un dermatologue ou un médecin esthétique qui m'avait fait le diagnostic. Il m'a dit ok, chez vous, ça ne marchera pas très bien. Déjà, il m'avait prévenu chez les rousses, ça ne marche pas, mais il voulait quand même me le vendre. Il m'a dit de toute façon, après, ça sera pas moi. Vous verrez mes assistantes pour l'épilation. Ça, c'est quand même vaut mieux être fait, que ce soit fait quand même par un médecin. Hein.
Exactement. En fait, légalement, depuis les années 70, on parlait de l'épilation qui doit être pratiquée uniquement par des médecins. Et il y a eu un rappel à l'ordre il y a un an pour préciser que le laser, à partir de depuis un an, ne doit être fait que par un médecin.
Pour terminer l'émission, niveau satisfaction des patientes et des patients, est-ce que ça a été mesuré d'ailleurs ? Ils sont contents en moyenne ? Enfin, est-ce qu'on sait ?
On est à 95% de satisfaction.
Ah oui, donc si le diagnostic au départ a bien été posé...
Exactement, c'est pour ça. Il faut bien poser l'indication, il faut bien effectuer les séances. Et la satisfaction est présente.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Ada, d'être venu sur notre plateau grâce à vous. On sait tout ce qu'on a besoin de savoir sur l'épilation définitive. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Maux du quotidien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un dispositif médical vital pour certains patients cardiaques, le pacemaker. À quoi ça sert ? Comment ça marche ? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Maux du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un dispositif médical qui sauve la vie de certains patients cardiaques, le pacemaker. Alors savez-vous à quoi ça sert ? Qui peut en avoir besoin et comment ça fonctionne ? Benjamin Lévesque, qui a un grand cœur, a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Un pacemaker, c'est un appareil électrique implanté dans le corps qui permet de...
subvenir aux faiblesses du cœur.
Petit appareil qui vient aider le cœur à avoir un rythme cardiaque régulier.
C'est une personne qui a une insuffisance cardiaque?
Alors j'espère ne pas emporter très rapidement parce que sinon je suis obligé de sonner à l'aéroport.
Moi j'ai toujours entendu dire que ça ressemblait à une grosse pile.
En général, c'est implanté chez les personnes âgées qui ont des faiblesses cardiaques.
Et oui, il faut passer par une opération chirurgicale. Et à mon avis, on est hospitalisé pendant une dizaine de jours.
Oui, à partir du moment où on touche le cœur, qui est quand même l'organe le plus vital qui soit, oui, fatalement, c'est une opération qui n'est pas bénigne.
Alors, on va faire le point sur ce qu'est un pacemaker. D'abord, Jimmy, à qui on pose ce type de dispositif? Faut avoir quoi comme problème?
Alors, faut avoir un problème d'arythmie et d'arythmie plutôt sévère. Souvent, lorsque le cœur bat de façon lentement, mais très lentement. En règle générale, c'est à moins de 50 par minute. Soit parce qu'il est lent suite à une maladie, notamment
c'est
de l'oreillette.
C'est pas 50, je ne me rends pas compte.
Moins de 50.
C'est combien par rapport à la moyenne en
Alors,
général
un cœur, la fréquence cardiaque normale, c'est entre 60 et 100.
D'accord.
Entre 50 et 60, on se dit c'est limite, mais moins de 50,
ouais, là,
le cœur ne bat pas suffisamment correctement pour impulser du sang vers les organes et oxygéner le cerveau. Mais aussi, parfois, lorsqu'il y a de l'arythmie, le cœur bat lentement, mais de façon complètement anarchique. Mmh. C'est ce qu'on appelle les blocs auriculo-ventriculaires. Et dans ces cas-là, ça, on les découvre lors de pertes de connaissance et de malaise. Donc, un cœur qui ne marche pas, qui ne pompe pas suffisamment, nécessite un pacemaker. C'est 400 000 personnes qui sont équipées de pacemaker en France.
Ah oui, c'est pas mal.
Et c'est une opération qui se fait assez facilement.
Alors, une fois qu'on a le pacemaker, il sert à quoi? Il dit au cœur, allez hop, il faut que tu battes plus vite.
Ouais, en quelque sorte, lors de petites impulsions électriques. Alors, le pacemaker, il a un double rôle. Le premier, c'est de détecter des anomalies. Parfois, votre cœur va battre correctement, et donc il va dire que tout va bien, mais il va détecter les arythmies. Et lorsqu'il la détecte, il impulse un signal électrique pour le stimuler le cœur et combler l'arythmie qu'il a détectée.
Et ça se pose comment? Vous avez dit que ce n'était pas une grosse intervention, donc c'est une anesthésie locale générale?
Exactement, une petite anesthésie locale, ça dure moins d'une heure, on reste à l'hôpital 24-48 heures, grand maximum. Ça se place au niveau, sous la clavicule, au niveau du muscle pectoral, à gauche chez les droitiers et inversement. On fait une petite incision de 3-4 cm.
Oui, c'est pas énorme.
Où on place le pacemaker du coup, sous la peau. Et puis, on a des sondes on passe par les veines, du bras, on monte jusqu'au cœur, au niveau du ventricule droit et de l'oreillette droite, et puis on contrôle la position de ces petites électrodes.
Cette pose, elle se fait sous imagerie en fait.
Exactement, sous imagerie pour être sûr qu'on est en bon endroit. Une fois qu'on a vu qu'on était en bon endroit, on contrôle le pacemaker pour être sûr qu'il marche correctement, et puis on sort, et puis à ce moment-là, le pacemaker fait son rôle, et on est tranquille de nombreuses années.
Et ça fonctionne à quoi cette machine? Très rapidement, c'est de l'électronique, donc il y a une pile.
Oui, la pile, c'est avec du lithium, et donc il faut la changer tous les 10-12 ans. On estime à peu près à 15 000 renouvellements par an sur les 60 000 qu'on pose chaque année.
D'accord, et juste rapidement, on évite les portiques d'aéroport, il y a quand même 2-3 trucs de
sécurité.
Oui,
c'est un peu une idée reçue. Le portique, vous pouvez y aller, mais bon, passez pas 100 ans, vous pouvez travailler.
De toute façon, on a une carte de porteur.
Exactement, garder votre carte, c'est hyper important. On peut utiliser son téléphone portable, mais de l'autre côté de l'oreille si possible, et on peut utiliser les ondes Wi-Fi. Bref, faut juste contrôler ça chez le cardiologue régulièrement.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec Catherine Blanc, notre sexologue, on verra comment pimenter un peu sa vie sexuelle, même quand son partenaire préfère rester classique. Elle nous donnera 2-3 conseils. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle arrive dans ce studio pour la dernière séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, Jimmy, bonjour.
Il dort.
Non,
il est là. Il attend la question avec impatience. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question qu'attend Jimmy avec impatience. C'est la question de Benjamin. J'ai rencontré mon compagnon il y a quelques mois. Tout est parfait, je suis amoureux. Le seul bémol, c'est ce qui se passe au lit. Je le trouve très classique, alors que moi, j'aime les mots crus et les fessées, par exemple. Que dois-je faire? Alors Catherine, c'est vrai qu'on n'ose pas toujours se libérer dans les premiers mois d'une relation. C'est dû à quoi?
Bien d'abord parce qu'on ne sait pas très bien comment l'autre nous considère et comment il nous aimera ou nous considérera si on commence à révéler des choses plus intimes de soi ou plus décalées peut-être. Donc évidemment, c'est toujours délicat, mais c'est, je pense, aussi délicat quand les couples sont plus anciens parce que plus le temps dure, plus on pourrait libérer la parole, mais plus on libère la parole, plus l'autre est en droit de penser que « mais que se passe-t-il? Pourquoi tout d'un coup ça? Pourquoi maintenant? A-t-il ou a-t-elle rencontré
la même chose? Tout d'un coup, il veut des trucs nouveaux, c'est bizarre. »
Oui, a-t-il ou a-t-elle rencontré quelqu'un? Donc c'est toujours délicat en fait de parler de son intimité.
Alors du coup, Catherine, comment comment faire pour Benjamin, pour pimenter un peu sa relation sexuelle, comment il peut faire pour décoincer un petit peu son copain, du coup?
Alors d'abord, c'est pas être coincé que de ne pas participer au même fantasme que l'autre.
Peut-être qu'il aime, d'ailleurs, il lui a peut-être pas posé la question. Il dit, moi j'aime les mots crus, les fessés. Bon, ils ont pas essayé, va savoir ça, parce que, il va aimer. Hein.
Parce que les deux sont peut-être dans la difficulté de se révéler. Il y en a un qui est évidemment celui qui pose la question, donc il nous livre sa fantasmatique, quand l'autre peut-être n'est que dans l'idée qu'il se fait de ce qu'il doit être. Donc c'est toujours difficile de savoir ce qui est dans la tête des uns et des autres.
Jimmy ?
Et puis là, il parle de mots crus et de fessées. Est-ce qu'on doit mettre ça sur le même tableau ? Est-ce que les mots crus sont peut-être une étape supplémentaire, alors que la fessée, elle est peut-être un peu moins, on va dire, osée, non ? Je sais pas.
Ah, ça, c'est bien la fessée.
Non, mais c'est une question, non, mais parce qu'est-ce qu'on...
Si,
qu'il faut...
je sens bien que la fessée, elle a intéressé et Jimmy, et Mélanie, d'ailleurs.
Alors, Catherine,
répondez-nous.
Ok. Donc, non, vous avez le droit, Jimmy, de donner des fessées sans être pour autant adepte des mots crus. Si c'est ça
on
votre question.
Ce n'est pas voilà. Ma question, mais c'était la question de Benjamin, qu'on souhaite aider et guider.
Oui, non, en fait, je pense que effectivement, ce sont deux choses qui peuvent s'apparenter ou pas du tout. Dans un cas, les mots crus, c'est raconter une sorte d'agressivité, de liberté de cette agressivité, de ce hors-la-loi, mettre les mots qui sont non usuels, non amoureux, justement, et voir que l'attachement se fait envers et contre tout. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans l'usage de ces mots. La fessée, il y a quelque chose qui est à la fois... pour l'imaginaire de chacun, ce peut être la punition, mais ce peut être aussi une façon de, j'allais dire, plus animale, un peu, on tape sur la croupe de l'autre.
C'est quoi
sorte.
Qui est excitant finalement dans la fessée, quand ça excite les gens, hein, je ne dis pas que ce soit le cas, c'est pas forcément violent d'ailleurs une fessée, dans
non,
un acte
non.
sexuel, je veux dire.
Non, c'est pas violent. Ce peut être envisagé comme violent, évidemment, selon le passif de chacun, quelqu'un qui a été frappé ne va pas
bien
envisager
sûr.
La fessée de la même façon. D'ailleurs, il peut justement intégrer dans la sexualité la fessée parce que ça participe du rapport à l'autre initial, ou au contraire fuir comme la peste un tel acte parce que ce serait quelque chose d'extrêmement humiliant. Je crois qu'il y a quelque chose du plaisir de faire rebondir la main sur le muscle qui est quand même le plus gros muscle du corps. Il y a un bruit particulier, il y a aussi une idée d'emballement comme on taperait sur la croupe d'un cheval
ça fait penser, finalement,
ou d'une
ouais.
jument qui partirait au,
allez,
triple,
au galop.
Au galop, exactement. Donc il y a un imaginaire qui est un imaginaire
animal,
mais même pas qu'animal, puisque même les enfants, on aime bien quand ils sont avec les couches qui rebondissent considérablement les fesses, on aime bien l'idée de taper sur les fesses pour ce côté justement...
Tapoter, bien sûr, pas taper, mais tapoter sur la couche. Quoi,
bien
c'est
sûr,
ça.
Allez, c'est ça. Et c'est U. Voilà, voilà. Donc je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, une sorte de gentille position dominante et de liberté offerte à l'autre, et certainement que certaines personnes aiment la fessée, la recevoir, parce que justement la recevoir, c'est une sorte d'invitation à l'emballement, et d'autres au contraire, surtout pas, parce qu'une fessée serait au contraire une punition ou serait une soumission.
Et donc, pour conclure,
rien à voir avec la fessée qu'on peut avoir quand on était enfant, celle qu'on reproduit dans l'acte sexuel, ce n'est pas lié au fait qu'on a pu être tapé par ses parents ou qu'on n'a pas été tapé, qu'on veut moins.
Rien à voir ou tout à voir, ça dépend des histoires de chacun. Il y a des personnes, notamment des grands cas cliniques développés par certains psychiatres, notamment Jung, qui avaient une première patiente dont l'excitation extrême était justement d'être fessée, puisque ça lui renvoyait à un moment d'émotion forte d'une fessée reçue par son papa et qu'elle reproduisait systématiquement dans le cadre de sa sexualité, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un très beau film.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser à un organe masculin dont on parle peu, la prostate. Notre invité, le professeur François Desgrandchamps, nous expliquera à quoi sert cet organe et comment en prendre soin, notamment via l'alimentation. On répondra à toutes ces questions.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.